16 décembre 1983, théologie fondamentale, Père Philippe, Saint-Joseph.
Alors nous commençons aujourd'hui ce que nous aurions dû commencer au début de l'année scolaire. C'est un petit retard de 3 mois, c'est pas grand-chose. Le traité de la prophétie de saint Thomas. Vous voyez dans quel sens nous le faisons. Dans le sens d'une théologie fondamentale. C'est-à-dire, je me sers de ce que dit saint Thomas pour réfléchir. Donc, je serai très, très libre par rapport au texte de saint Thomas. Je ne fais pas un commentaire de la prophétie de saint Thomas. Je me sers de ce que saint Thomas dit sur la prophétie. C'est particulièrement intéressant, vous verrez. Il y a d'autres lieux parallèles. Pour essayer de comprendre le rapport entre la foi et la raison. On est en face donc d'un problème de théologie fondamentale, et ce problème de théologie fondamentale, transmission, ce problème de théologie fondamentale, c'est la foi et la raison. Ici, nous regardons, la foi s'est transmise par un prophète. Il y a eu le grand mystère de la révélation. C'est un fait. La foi aurait pu être transmise autrement. Et c'est important de se le rappeler. Dieu n'avait pas besoin des prophètes. Dieu n'avait pas besoin de la parole humaine pour me parler. Dieu peut agir directement sur mon intelligence. Le Verbe éclaire tout homme venant en ce monde. C'est dit avec force. Le Verbe éclaire tout homme venant en ce monde. Donc on ne dit pas que le Verbe éclaire par la parole en se servant de la parole, non. Que se sert des hommes, non. Immédiatement, il y a la possibilité de l'action du Verbe de Dieu sur mon intelligence. Et cette action du Verbe de Dieu sur mon intelligence permet à mon intelligence d'être illuminée, l'illuminisme de saint Augustin, pour ceux qui s'intéressent. Il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, très intéressant comme position, qu'on retrouve chez saint Bonaventure, qu'on retrouve dans toute une école profonde, l'illuminisme de saint Augustin. C'est une position théologique et philosophique particulièrement intéressante. Ça, il faut essayer de la connaître un peu. C'est très éclairant. Et c'est beau, c'est très beau, l'illuminisme de saint Augustin. On essaie de voir comment je suis directement sous la mouvance de Dieu, que Dieu éclaire mon intelligence, que Dieu me rend plus intelligent. Ce qui est vrai, du reste. Hein. Dieu me rend toujours plus intelligent, parce que c'est Dieu qui est source de mon intelligence. Et Dieu ne cesse de permettre à mon intelligence d'aller toujours plus loin. Dieu aurait pu très bien ce qu'il fait dans l'ordre surnaturel, le faire dans l'ordre surnaturel. Dans l'ordre naturel, le Verbe éclaire tout homme venant en ce monde. Mon premier maître, c'est le Verbe de Dieu. C'est pour ça que je suis si intelligent. Dites ça pour chacun d'entre vous. Hein. Je parle pour vous. Mon premier maître, c'est le Verbe de Dieu, et c'est pour ça que je suis si intelligent. Parce que c'est vrai. La cause première de mon intelligence, c'est le Verbe de Dieu. Il ne faut surtout pas l'oublier. Jugement de sagesse. Hein? Parce que ça, je ne le découvre pas tout de suite. Mais dans un jugement de sagesse, dans un jugement théologien, je peux dire que la lumière est source de toute autre lumière. Le Verbe est la véritable lumière, source de toute autre lumière. Et c'est pour ça qu'il est la véritable lumière. Parce qu'il est source. Alors, il est la lumière, source de toute autre lumière. Et ceci immédiatement, sans intermédiaire, immédiatement, Dieu éclaire mon intelligence. Ce qu'il fait dans l'ordre naturel, il peut le faire dans l'ordre surnaturel. Et Dieu aurait pu très bien me donner immédiatement une lumière surnaturelle par le Verbe de Dieu et me permettre d'être un croyant uniquement par l'influence du Verbe de Dieu sur mon intelligence, en créant en moi un habitus de foi, une vertu infuse de foi, qui m'aurait permis de recevoir cette nouvelle illumination surnaturelle, qui m'aurait permis d'adhérer au mystère et d'adhérer pleinement au mystère de Dieu qui se révèle à moi. Et la révélation serait à ce moment-là un mystère tout à fait personnel, chacun d'entre nous. On pourrait se retrouver en disant que nous sommes tous illuminés par Dieu et par le Verbe de Dieu, et chacun d'entre nous, nous l'exprimerions à notre manière. Dieu a voulu que ce soit autrement. Il a voulu que dans l'ordre naturel, il y ait un maître premier qui est le Verbe de Dieu, et que Dieu puisse se servir d'autres maîtres. Dieu se sert du monde physique. Dieu se sert des hommes. Les deux sources par où je suis de fait enseigné. Depuis mon plus jeune âge, j'ai eu des maîtres ou des maîtresses qui m'ont enseigné à prendre des coups, qui m'ont enseigné à jouer, puis petit à petit qui m'ont enseigné à lire, puis à compter, et ainsi de suite. La grand-mère, j'en ai eu pas mal, hein. Ils vont continuer d'en avoir. Mais ici, c'est une haute école, c'est différent. Plus l'école est haute, plus le maître est serviteur de la vérité, normalement. Et donc, plus il s'efface devant la vérité. Alors, c'est ce qu'il faut. Mais on continue d'avoir des maîtres. Dieu a fait comme ça. Il aurait pu très bien faire autrement. Et puis, il y a la réalité, le monde physique. Le monde physique m'enseigne. La réalité physique, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du chat. Le chat m'a appris quelque chose. N'importe quel animal m'a appris quelque chose. Le chien m'apprend quelque chose. Le cheval m'apprend quelque chose. Le lion m'apprend quelque chose. Évidemment, ordinairement, le dialogue est un peu plus lointain. Mais autrement, il m'apprend quelque chose. Si je peux découvrir un peu ce que ça, toutes les réalités m'apprennent quelque chose, mais les maîtres. Dans l'ordre surnaturel, Dieu se sert d'instruments. Ce n'est pas nécessaire, ça fait partie d'une certaine manière, d'une certaine modalité du gouvernement divin. Et ça, c'est très très important de se le rappeler. Il faut bien, bien affirmer que ça fait partie d'une certaine modalité du gouvernement divin. Dieu aurait pu très bien agir autrement. Dieu a agi en se servant d'instruments, en se servant des prophètes. Il s'est servi de Noé, parce que c'est le premier. Ça, c'est vrai, c'est le premier. C'est le premier perdu dans la nuit des temps, préhistorique. Parce que l'arche de Noé, c'est difficile à la retrouver. Et c'est vrai, c'est difficile de retrouver les ossements de Noé. Pas comment. Mais ce qui est sûr, c'est que Noé a joué un rôle de médiateur. Et puis après, Abraham. Alors Abraham, c'est déjà beaucoup plus connu. On entre dans l'histoire. Puis ensuite, les prophètes. Tous les hommes inspirés jusqu'au Christ, la grande médiation du Christ, qui est une médiation sacerdotale impliquant la médiation royale et la médiation prophétique. Et le tournant qui s'est fait, et ça c'est intéressant à voir, parce qu'on va comprendre ce tournant très important. Donc, au point de départ, Nous avons des prophètes. Ou, si vous voulez, il y avait des pères prophètes. Hein, vous avez des pères prophètes. Noé est un père prophète. Il est père avant tout. Et par-dessus le marché des prophètes. Vous avez Abraham. Lui aussi est père avant tout. Et vous avez des prophètes, je vais dire un peu plus, qui sont plus pères. Samuel. Vous avez des prophètes qui ont été malheureux en ménage. Osée. C'est bien. Très malheureux en ménage. Et ça lui a servi comme prophète. Quand on est prophète, toutes nos expériences servent à comprendre certaines choses. Ce n'est pas nos expériences. Elles sont assumées par l'instinct prophétique. Elles sont assumées par... Au fond, c'est sûr qu'il y a eu des prophètes. Allez la plus. Isaïe. Et le second Isaïe, nous sommes à l'état pur. Donc c'est les prophètes à l'état pur. Puis ensuite, le Christ. Toujours des médiations. Il y a une médiation prophétique. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une médiation prophétique. Parce que Dieu se sert d'eux. Se servir d'eux, c'est la médiation. Se servir pour transmettre la vérité. En se servant de la parole. C'est ça le propos du prophète. Il se sert de sa parole pour conduire à la vérité. Et lorsqu'il s'agit du Christ, on est en face de la médiation sacerdotale en premier lieu. Cette médiation sacerdotale et royale, elle est prophétique. Le Christ est grand prêtre, il est roi, il est prophète. Alors voyez le tournant qu'il y a eu à partir de Noé. Qu'est-ce qui domine jusqu'au Christ? C'est la prophétie. Si j'avais été dans l'Ancien Testament et que Dieu m'avait laissé le soin de choisir, hein, j'aurais opté pour être un prophète. Ben tous, hein, je crois, on aurait tous opté pour être un prophète. Je ne crois pas que j'aurais opté pour être un lévite. Sauf si on a très fort l'esprit liturgique et l'esprit de Saint-Esprit. Très d'accord, à ce moment-là, on aurait peut-être opté de la case des limites, ça serait intéressant. Mais autrement, il me semble que tous, hein, vous auriez dit, je ne vais pas tout dire ça avant, je vais vous prendre un petit papier, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous auriez préféré être? Pas roi, pas grand intérêt. Tandis que prophète, ça, oui. C'est beau un prophète dans l'Ancien Testament, c'est magnifique, c'est roué de coups de temps en temps, ça c'est pas important, mais c'est quand même quelque chose de très grand. En direction avec le prophète. L'homme qui voit ce que les autres ne voient pas, l'homme qui est directement en relation avec Dieu, et qui affirme sa parole de Dieu. C'est extraordinaire. C'est ça qui domine. Qu'est-ce qui domine à partir du sacerdoce du Christ? Le double sacerdoce du Christ, hein, le sacerdoce royal des fidèles, le sacerdoce ministériel. Et c'est plus grand d'être prêtre que d'être prophète dans la Nouvelle Alliance. Puisqu'on est prophète pour être prêtre. L'esprit de prophétie, c'est tout simplement pour qu'on vive du sacerdoce royal des fidèles ou du sacerdoce ministériel. Et la royauté est ordonnée aussi aux sacerdotes. C'est ça qui est de si particulier dans la Nouvelle Alliance. C'est ça qui fait que l'Ancienne Alliance, vous voyez, ne peut pas m'éclairer directement. C'est le Christ qui éclaire tout ce qui est passé avant, et le Christ apporte quelque chose de tout à fait nouveau. Et dans la Nouvelle, alors, à partir du mystère du Christ, l'Église vit de l'Esprit du Christ. don de l'esprit de son sacerdoce. Le Christ a réalisé un royaume sacerdotal. On ne dit pas que le Christ a réalisé un royaume prophétique. Non. On ne dit pas que le Christ a réalisé un royaume tout court. Non. Tu restes quand il y a des rois, c'est pas comme ça. Vous allez me dire comme s'il y avait des prêtres non plus. Oui, mais c'est ça le problème de l'Église. C'est pour ça que c'est pas comme un ami. On est tous prêtres. D'une façon sacerdotale, d'une façon ministérielle, ou au contraire d'une façon mystique. D'une façon profonde. C'est vrai, un royaume de prêtres. C'est un des aspects auquel on ne réfléchit pas assez, parce que c'est pas toujours commun d'être un royaume de prêtres. C'est pour ça que pendant un certain temps, on a pu parler beaucoup. Royaume de prêtres, dans l'Église, il y a les enseignants, c'est la vie. Hein. Il y a toujours ceux qui sont capables d'enseigner, puis ceux qui reçoivent. Alors, les maiores et les minores, une grande distinction très très importante au Moyen Âge. Oui, c'est royaume de prêtres. C'est très différent, vous voyez, c'est quand même très important de saisir ça, parce que le Concile Vatican II le remet très en lumière et nous oblige d'être attentifs à ça. Je n'ai pas le droit de retourner uniquement au Moyen-Âge en disant « Oh, je vais faire partie des majorettes. Je vais avoir tous les diplômes possibles pour pouvoir enseigner. J'aime mieux enseigner que d'être enseigné. » Aristote aurait dit « C'est plus contemplatif d'être enseigné que d'enseigner. » Ce qu'on avait dit au père Garrigou à la fin de ses jours. Donc, comme il était fatigué, et que c'est plus fatigant, alors on lui dit, il vaut mieux que vous n'enseignez plus. Parce que c'est plus grand d'être enseigné que d'enseigner. Alors le père Garrigou dit, vous croyez? Mais mon père voulait m'enseigner toute votre vie. Ah oui, c'est bien de l'enseigner, mais de le vivre. A dit le père Garrigou la grande. Bon, très bien. Et c'est très vrai. Et c'est la même chose, sacerdoce royal des fidèles, sacerdoce ministériel. Le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce royal. Et donc, il est normal que dans l'Église, le sacerdoce royal des fidèles soit souvent plus prophétique que le sacerdoce ministériel. Si je comptais dans l'Église aujourd'hui où se trouvent les vrais prophètes, où est-ce que vous les verriez? Dans la vie contemplative. Ça, c'est vrai. Mais pas le sacerdoce ministériel, dans la vie contemplative. Quand vous avez affaire à de vrais contemplatifs, vous avez affaire à des prophètes. Ils prophétisent dans le sens qu'ils ont le sens des choses invisibles. Quand vous n'avez que sens que des choses visibles, vous n'êtes pas prophète du tout. Vous êtes positiviste. Mais pas prophète, c'est juste là l'opposé. Le prophète, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Mais regardez, voyez pas ce qui se passe. Alors, il regarde avec un regard profond. Alors, on voit des prophètes, on voit des contemplatifs. On peut trouver aujourd'hui dans l'Église, des mères de famille, Conchita, des mères de famille qui avaient un sens prophétique extraordinaire. Des pères de famille aussi, ça se rencontre. Et puis quelquefois des prêtres, et quelquefois des théologiens. Quelquefois, vous voyez, quelquefois on trouve ça encore. Parce que c'est pas refusé pour eux, du reste. Mais ordinairement, le métier de théologien a pris une telle place, leur méthode est d'une tellement importance pour eux, il en faut une méthode, c'est très nécessaire, c'est très difficile quand on est très riche d'être très pauvre. Hein? Pas sur le même aspect. Mais on est très riche grâce à sa méthode, on a une peine énorme d'être pauvre. Or, seuls les pauvres sont ceux dont l'Esprit Saint se sert. Pour être prophète. Oui, c'est pour ça que c'est très important de voir ça. Le sacerdoce du Christ, sacerdoce royal du ça va de 30 minutes. Bon. Nous allons, ça c'est pour essayer de comprendre ce que nous allons essayer de voir. De fait, la prophétie tient une place importante, capitale dans l'Ancien Testament. Capitale. Supprimez les prophètes de l'Ancien Testament, qu'est-ce que vous aurez ? Vous aurez la loi. Et même, la loi a été donnée par les prophètes. Moïse, en tant qu'il a reçu la loi, c'est un législateur prophète. Ça, c'est sûr. En tant qu'il a reçu la loi, il est législateur et prophète. De sorte que tout l'Ancien Testament repose sur la prophétie. Et tout le Nouveau Testament sur le sacerdoce. Et la différence de fondement des deux, hein, tout l'Ancienne Alliance repose sur la prophétie, l'esprit de prophétie. Et tout le Nouveau Testament repose sur le sacerdoce de Jésus. Sans supprimer l'aspect prophétique, mais en le relativisant au sacerdoce. C'est pour ça que c'est important de regarder la médiation prophétique, la médiation sacerdotale. C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la médiation de prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'être prophète. Après, il nous restera de savoir qu'est-ce que c'est que d'être prêtre. Parce que les deux sont capitales. Je ne peux rien comprendre à l'Ancien Testament si je ne regarde pas ce que c'est que l'esprit de prophétie. Je ne peux rien comprendre au Nouveau Testament si je ne comprends pas ce que c'est que le sacerdoce de Jésus. Parce que tout repose dessus. Alors, voyons maintenant ce que saint Thomas nous dit sur la prophétie. Saint Thomas met ce traité de la prophétie dans la Secunda Secundae, question 71 à 78. Secunda Secundae. Question 171 à 160. Je vous dis ça pour que vous appreniez à bien noter la somme théologique. On dit secunda secundae. C'est que la seconde partie, la secunda, se divise en deux. Vous avez la secunda, la prima secunda. La première partie de la seconda, seconda, seconda. Vous avez une première partie dans la seconde partie et une seconde partie dans la seconde partie. Alors, la première partie traite de l'acte humain et des vertus en général et du péché et de la grâce. Et la seconde partie commence par les vertus théologales et les vertus en particulier. Et quand on traite de la seconda, seconda, on va traiter des états et on va traiter des grâces charismatiques. Et les grâces charismatiques, parmi les grâces charismatiques, la plus importante, c'est la prophétie. Une des plus importantes, c'est la prophétie. Et par là, on traite, comme dit saint Thomas, des vocations particulières. Jusque-là, de la question 1 à la question 70, saint Thomas a traité de la vocation chrétienne en général. Puis à partir de 171, nous y entrons, les vocations particulières. C'est la question de savoir est-ce que tout chrétien est prophète. Aujourd'hui, on le dira, vous voyez, tout chrétien est prophète. C'est vrai à cause justement de cette grâce sacerdotale du Christ. N'oublions pas. Mais n'oublions pas que saint Thomas n'est pas ici dans la tertia pars. Parce qu'on fait grande attention. Dans la tertia pars, saint Thomas traite la question du Christ. Et donc, s'il traitait la question de la prophétie dans la tertia pars, on verra après ça ce que saint Thomas nous dit de la prophétie du Christ. Tandis qu'ici, il étudie en soi les vertus, quitte le carême. Et c'est l'écharisme. Alors, l'écharisme, à la différence des vertus, c'est que les charismes ne sont pas donnés pour notre sanctification propre. C'est pour la communauté. Quand vous avez l'instinct prophétique, quand vous êtes illuminé par le propre, ordinairement, ce n'est pas uniquement pour vous. C'est même jamais pour vous. C'est toujours pour les autres. C'est pour la communauté dans laquelle vous êtes. Faisons attention. Je suis prophète de la communauté, j'ai une situation particulière, et je vous dis hein, au nom de Dieu que ça ne va pas du tout. Prophète de malheur, prophète de malheur, ça, parce que bien au contraire, au nom de Dieu, ça va très très bien. C'est... Oui, si vous dites ça, au nom de quoi? Là, j'ai demandé, on va voir, au nom de quoi? Alors il faudra montrer que vous êtes vraiment un prophète. Envoyé de Dieu, vous avez l'instinct charismatique, à ce moment-là, il y aura peut-être des petits signes, des miracles que vous pourrez faire. Donc là, on commencera à dire, tiens, tiens, est-ce que c'est vraiment de Dieu ce qu'il dit, est-ce que c'est pas de Dieu? Quand on voit quelqu'un, quand vous voyez Marthe, quand Marthe vous disait quelque chose, est-ce que c'était l'instinct prophétique ou pas? Et quand Marthe voyait quelqu'un qui venait auprès d'elle pour savoir telle ou telle vérité qui arriverait demain, Marthe l'a renvoyée promener, je ne suis pas une pitié. Elle l'a dit. Parce que ça, j'ai rencontré quelqu'un qui a reçu la bouche. Il est venu me voir tout de suite, après, je suis pas chez la retraite. Il va tout de suite. J'ai mis chez Marthe, Marthe. Je posais une question à Marthe. Marthe, est-ce que... Marthe me dit, je ne suis pas une pitié. Elle est partie. Ça n'a pas duré 10 minutes. Marthe ne voulait pas qu'on la traite comme prophète. En ce sens-là, elle était très chrétienne. Mais c'est sûr qu'elle avait des grâces de lumière. Quand elle pouvait dire à tel ou tel, je crois que vous avez la vocation. Je crois que vous devez faire ça. C'était des grâces prophétiques. C'était, faisait partie, et Marthe s'est jamais mis, vous voyez, elle ne s'est jamais mis en disant j'ai le don de prophétie, j'ai le don de voix. Jamais elle a dit ça. C'est les autres qui reconnaissaient. Quelqu'un qui commence à dire ça, j'ai toujours très peur. Toujours très peur. Quelqu'un qui se mettrait, vous voyez, sur la place de la Concorde, avec en disant j'ai le don de prophétie. Je suis l'homme qui voit ce que les autres ne voient pas. Alors, c'est, dans l'Ancien Testament, ça s'est dit, ça. C'est pour ça qu'il faut faire grande attention. Ça s'est dit. Il peut y avoir quelqu'un qui me dit, moi j'ai le don, je vous affirme, j'ai cette lumière-là. Ce que je reconnaissais, ce que j'aimais dans Marthe, c'était sa pauvreté, c'était son humilité. Mais ce n'est pas un signe absolument net que ce n'est pas de Dieu, s'il dit, je vous affirme, j'ai l'instinct prophétique. Après tout, l'instinct prophétique, comme nous verrons, est du côté de l'intelligence. Quand c'est du côté de l'intelligence, on a conscience, on sait. Alors, bon, alors, c'est pour savoir ça. Après avoir établi, étudié l'ensemble et le détail des vertus et des vices qui appartiennent à la condition et à l'état de tout homme, il reste à voir ce qui concerne spécialement certaines catégories de personnes. Certainement considère certaines spécialités ad aliquos homines pertinentes. Or, sous le rapport des habitudes et des actes de l'âme raisonnable, on trouve chez les hommes une triple différence. Voilà la grande différence. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça va nous donner... Saint-Thomas va nous donner un petit, une manière de diviser les spécialités par rapport aux chrétiens, c'est évident. Ça veut dire le chrétien dans une zone et puis le chrétien qualifié. C'est pas ça, c'est pas l'ouvrier qualifié, l'ouvrier. Non, c'est pas ça. C'est le chrétien, celui qui a un rôle particulier, spécialité. Donc, premièrement, la diversité des charismes. Diversité des charismes. Alain écrit l'apôtre aux Corinthiens, l'esprit octroie une parole de sagesse, à l'autre une parole de science, etc. La diversité des formes de vie. Ensuite, les formes de vie. La diversité des formes de vie actives ou contemplatives, qui se distinguent par leurs opérations, ainsi que le dit encore saint Paul, autre en effet est le genre d'occupation de Marthe, qui s'inquiétait et s'empressait aux soins du service, c'est la vie active. Autre la manière de vivre de Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole, c'est la vie contemplative. Il s'agit de bien le comprendre, pas matériellement. C'est pas celui qui est assis sur le mec, c'est la vie contemplative, mais celui qui s'affaire, qui la vit activement. Pas du tout. Donc il faut bien le comprendre, il faut le comprendre intérieurement et profondément. Troisièmement, la diversité des fonctions et des états. Forme de vie, fonction, état. La diversité des fonctions et des états, saint Paul écrit aux Éphésiens, Dieu a établi les uns apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et d'autres docteurs. Ce sont là les divers ministères dont parle l'apôtre dans sa première épître aux Corinthiens. Les ministères. Vous voyez bien comment, à partir de la question 170, nous entrons dans quelque chose de particulier par rapport à la vie chrétienne. Les charismes dans la vie chrétienne, ça diversifie. Les formes de vie, et puis les fonctions ou états. Vous voyez que saint Thomas s'appuie entièrement sur saint Paul. C'est très significatif. Les charismes forment l'objet de notre présent propos. À ce sujet, il faut remarquer que parmi les dons gratuits, certains ressortissent à la connaissance, d'autres au discours et d'autres à l'action. Saint Thomas a déjà traité de la grâce charismatique. Donc il ne fait pas allusion. C'est présupposé dans la prima secundae. Dans la prima secundae, saint Thomas a traité donc, saint Thomas a déjà traité des charismes qui sont présupposés. Donc, à ce sujet, il faut remarquer que parmi les dons gratuits, puisque les dons gratuits, c'est les dons charismatiques, c'est la même chose, c'est le même nom. Charisme veut dire don gratuit. Charisme, qui est donné gratuitement. Donc, il faut remarquer que parmi les dons gratuits, certains ressortissent à la connaissance, d'autres au discours et d'autres à l'action. Donc, dans les charismes, on modifie trois aspects. D'autres ressortissent au point de vue du discours, la parole, et d'autres à l'action. Les charismes de connaissance, c'est connaissance de parole et d'autres d'action. Tous les dons qui sont relatifs à la connaissance peuvent être compris sous le nom de prophétie. C'est dans le prologue. C'est très important ce prologue, parce qu'il donne une grande vision des dons particuliers de chacun pour se voir. Alors vous voyez, tous les dons qui ressortissent à la connaissance, tous les charismes qui ressortissent à la connaissance, On les appelle d'une façon générale prophétie. La révélation prophétique, en effet, s'étend non seulement aux événements humains futurs, mais encore aux réalités divines, tant aux vérités qui sont proposées à la croyance de tous et qui sont du domaine de la foi, qu'aux plus hauts mystères qui sont l'apanage des plus parfaits et se rapporte à la sagesse. Ça, c'est très très important de bien saisir ça, parce que pour bien saisir ce langage que saint Thomas donne ici sur le mot prophétie, la révélation prophétique, en effet, s'étend non seulement aux événements humains futurs, c'est ça qu'on appelle prophète, c'est ceux qui parlent du lendemain et des guerres. Je vous annonce qu'il y aura une guerre dans 6 mois. Je suis un grand prophète. Je vous annonce qu'il y aura une guerre dans 6 mois. Mais, alors, vous voyez, là, j'annonce un événement. Ah oui, on peut l'annoncer. J'en ai la conviction profonde. Mais cette conviction profonde, elle relève de qui? Elle relève directement de l'Esprit-Saint. Elle relève de votre réflexion, de vos informations. Oui, on ne sait pas. Donc, il faut comprendre que mes prophéties, que ce qui relève directement de Dieu. La révélation prophétique, en effet, s'étend non seulement aux révélations humaines futures, mais encore aux réalités divines, tant aux vérités qui sont proprement, qui ressortent, tant aux vérités qui sont proposées à la croyance de tous et qui sont du domaine de la foi, qu'aux plus hauts mystères qui sont l'apanage des plus parfaits et se rapprochent et se rapportent à la sagesse. C'est ça qu'on doit comprendre. La révélation prophétique a aussi pour objet les substances spirituelles par lesquelles nous sommes poussés au bien et au mal. Alors, c'est le don de discernement des esprits. Ça regarde la connaissance. Et alors là, ça regarde les personnes. Est-ce que vous subissez une bonne influence ou une mauvaise influence? Est-ce que vous êtes possédé du démon ou pas possédé du démon? Ça relève du discernement des esprits. Et c'est pas si commode que ça, de discerner. La révélation prophétique, donc, s'étend encore à la direction des actes humains, c'est le don de science, ainsi qu'on le verra plus loin. Nous étudierons donc tout d'abord la prophétie et le ravissement, qui est un degré spécial de la prophétie. Si vous n'êtes pas ravi avant, ravissement spirituel, en extase. Les deux choses vont ensemble, et c'est intéressant du reste. Prophétie et ravissement. Au sujet de la prophétie, alors maintenant nous entrons proprement dans le traité de la prophétie de saint Thomas. Mais voyez que l'intérêt, hein, c'est toujours très intéressant ces préambules. Or, la question 70, c'est une charnière. Donc c'est intéressant de voir ce qui est avant, les vertus, et puis alors ici, j'allais dire en termes de la communauté. C'est la communauté qui peut être, c'est plus l'individu. Vous voyez, l'aspect éthique et politique. On trouve toujours la même chose. L'aspect éthique, personnel, j'allais dire l'éthique personnelle, l'aspect politique. Les deux choses sont complètes, mais c'est quand même deux aspects différents. Alors, au sujet de la prophétie, 4 points retiennent notre attention. Son essence, sa cause, le mode de la connaissance prophétique, la division de la prophétie. On verra ça successivement. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Sa cause, d'où elle vient, le mode de connaissance prophétique et la division de la prophétie.